BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence amis professionnels de ce secteur de l'immobilier. Le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers. Les courtiers sont régulièrement sur notre antenne. Un courtier formidable aujourd'hui, j'ai vraiment du mal. Olivier Torgeman, pour vous financer, qui nous parlera d'une histoire qui est assez intéressante sur ce métier de courtier. Parce que le courtier, il va pas non seulement négocier le meilleur crédit immobilier auprès de votre banque, il peut aussi négocier avec un promoteur immobilier qui voulait demander à une propriétaire de déménager et donc elle a obtenu un petit peu plus d'argent. Vous allez voir, c'est une histoire formidable qui nous rappelle qu'en fait, passer par un courtier, ça peut être extrêmement utile et pas uniquement auprès de la banque. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. J'étais pas là la semaine dernière, mais il s'est passé 2-3 choses. Et notamment, du côté de nos chers et tendres passoires thermiques, on vous laisse plus de délais, amis propriétaires bailleurs de passoires thermiques, pour faire les travaux de rénovation. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? On verra tout ça sur le plateau des experts de l'IMO. Mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Olivier Torgeman, directeur de l'agence Vous Financez du Perreux. Bonjour Olivier.
Bonjour Marie.
Je retrouve les mots, le vocabulaire, sujet, verbe, complément. Vous avez une histoire formidable à nous raconter, Olivier. Quand j'ai lu le pitch de ce pro de l'IMO, j'ai trouvé ça génial. Vous allez nous raconter l'histoire d'une maman solo, 4 enfants, qui devait déménager parce que son immeuble allait être racheté par un promoteur immobilier. Et vous avez réussi d'une pierre 12 coups, j'ai envie de dire, non seulement de l'amener vers un autre projet immobilier, mais en plus de financer tout ça de manière exceptionnelle.
Ben en fait, c'est simple, j'ai été contacté donc par cette maman solo qui dont le propriétaire de l'immeuble en fait souhaitait vendre à un promoteur et elle devait absolument trouver des solutions pour pouvoir partir. Elle a trouvé une maison qui était aux alentours de 350 000 euros, donc qui était un peu au-dessus de son budget. Et donc on s'est permis de calculer ensemble et on a anticipé en fait avant qu'elle puisse être mise dehors, on va dire, on a anticipé ensemble sur quel serait le montant de financement qu'elle pourrait demander à une banque tout en étant crédible sans dépasser un endettement trop élevé. Et au final, après avoir pris contact avec le promoteur, il lui proposait 30 000 euros d'indemnité d'éviction. Je lui expliquais que la cliente en dessous de 60 000 euros, ce ne serait pas possible de la financer. On a réussi à obtenir ces 60 000 euros. La maison de 350 000, on a réussi à la négocier à 310 000. Tout en étant en montant patte blanche, c'est-à-dire qu'on a expliqué qu'on avait tout préparé et que la cliente ne pourrait partir qu'à ces conditions-là.
Non mais Olivier, je vous interromps. C'est votre boulot, ça, normalement, en tant que courtier, vous êtes censé aller négocier avec le promoteur cette indemnité d'éviction. Vous êtes censé aller négocier avec le vendeur du bien que la maman solo voulait racheter pour qu'il baisse le tarif. C'est votre boulot, ça?
Non, pas vraiment. Notre boulot, souvent, quand les clients prennent la peine de préparer leur projet, parce qu'un projet IMO, en fait, ça se prépare. Et qui prennent la peine de nous interroger en amont, qu'on puisse faire en sorte de crédibiliser leur projet, de les aider à le préparer, passer un petit coup de fil à un promoteur, passer un petit coup de fil à un propriétaire, ça nous arriverait. Enfin, en tous les cas, ça m'arrive régulièrement et ça me pose absolument pas de problème.
Ouais, mais enfin, là, Olivier, on parle. Vous avez réussi à doubler cette indemnité, donc vous lui avez fait gagner entre guillemets 30 000 euros là-dessus. Vous lui avez fait gagner 40 000 euros sur le bien qu'elle rachète. Ouais. Vous lui avez fait gagner 70 000 euros à cette dame quand même.
En fait, si vous voulez, je me suis senti en position de force, puisque en fait, le promoteur voulait absolument faire sa promotion immobilière. On sait, vous et moi, que c'est pas 30 000 euros, j'allais dire, qui peuvent changer la face d'un projet. Et le vendeur de la maison voulait vendre également, elle devait partir dans le sud, et etc. Donc en fait, tous ces éléments ont fait que je me suis dit, tiens, en tant que personne pour recherche de financement, je suis crédible. Donc j'ai pu apporter la crédibilité au projet en termes de financement, en expliquant aux deux parties, enfin aux trois du coup, que sans ces diminutions et augmentations de l'indemnité, il n'y arriverait pas. Le promoteur conserverait sur les bras son projet tant qu'il n'aurait pas de solution pour la cliente. Et le vendeur avait un peu de mal à vendre. Donc on s'est retrouvé, Et puis quand on est courtier, on a l'habitude des agents IMO, des promoteurs. Donc on a, on a les mots, je pense.
Et alors, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'apparemment, en plus, vous avez renoncé à votre indemnité, à vous, Olivier.
Oui,
Vous bossez gratos, bon. Olivier.
Marie, ne le dites pas. Ne le dites pas. Non, non. En fait, on a aussi dans notre métier, moi je considère qu'on a aussi une dimension un peu sociale. Enfin, c'est pas la première fois qu'il m'arrive d'avoir des dossiers où je me dis que tout le monde mérite d'acheter, et quand c'est une personne qui assumait déjà un loyer qui correspondait à peu près à la mensualité du futur crédit, bien que l'endettement était à 39, à un moment, quelqu'un qui sait payer ce genre de choses, qui fait le maximum pour ses enfants, on se doit de l'aider. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait, tout simplement.
Bah, franchement, votre témoignage, je l'aime beaucoup, je vous le dis, Olivier. Alors, je suis très partie prenante là-dedans et tout, mais vraiment, voilà, c'est une belle histoire et c'est des histoires de vie. Et c'est vrai que à chaque fois, je vends cette séquence, le pro de l'immo, en disant que ça s'adresse aux professionnels. Mais non, ça s'adresse à tout le monde. Et on voit que dans ces métiers de l'immobilier au sens large, vous le disiez, il y a du social, il y a de l'humain, en fait, surtout, parce que c'est comme
exactement
ça qu'on construit nos vies. Donc, voilà.
Et juste, évidemment, le partenaire bancaire, sans qui on n'aurait pas pu y aller, hein.
Évidemment.
Puisqu'en fait, il a accepté, il savait que sa caution refuserait, puisque la caution qui devait garantir le prêt n'irait pas sur une maman solo, 4 enfants à 39% d'endettement. Et le directeur de l'agence a pris le risque de valider en hypothèque. Donc, merci à lui et merci à mes partenaires, mais c'est en même temps la relation qu'on a qui fait que voilà.
Bon bah top, merci Olivier. Olivier Torgeman, directeur de l'agence Vous Financez du Péreux, merci pour votre témoignage. Et si comme Olivier, vous avez des histoires, qu'elles soient belles ou pas belles, là c'était un coup de cœur, mais ça peut être des coups de gueule, surtout n'hésitez pas à nous écrire, on a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et mes invités, vous les connaissez parce qu'ils viennent régulièrement à l'antenne pour décrypter tout ce qui se passe sur nos sujets globaux de la rénovation qui changent toutes les deux semaines. Faut pas partir en vacances. Audrey Zermati, directrice de la stratégie EFI. Bonjour Audrey.
Bonjour Marie.
Et Hervé Degreff, cofondateur de Vasco. Bonjour Hervé.
Bonjour Marie.
Alors on va parler des dernières annonces de la semaine dernière, mais petit aparté pour démarrer cette émission. Nos confrères d'RMC ont consacré un sujet hier sur Vasco et sa capacité à financer les travaux. Et je voulais vous laisser une espèce de droit de réponse, ce sont nos voisins, hein, on est dans les mêmes locaux, parce que c'est le modèle Vasco qui a été un peu moqué, avec l'idée que ce serait que bénéficiaire pour l'entreprise Vasco et pas tant pour les propriétaires qui bénéficient de vos services. Est-ce que rapidement, Hervé, vous pourriez rappeler le fonctionnement de Vasco et nous dire si effectivement le seul bénéficiaire de votre modèle, de votre business model, c'est vous ou pas ?
Merci Marie. Effectivement, Vasco propose aux ménages qui n'ont pas accès au crédit de financer leurs travaux de rénovation, leurs gros travaux de rénovation.
Pas uniquement les pompes à chaleur, parce que le sujet d'hier sur RMC était consacré aux pompes à chaleur, mais pas uniquement, on parle de gros travaux.
Exactement, donc l'angle qu'a pris RMC, c'est la pompe à chaleur. Et effectivement, je conseille à personne de financer 10 ou 15 000 euros de pompe à chaleur en vendant un bout de sa maison, ça paraît assez évident. Donc on est parti effectivement du mauvais pied dans cette explication. Et puis, on a oublié que c'était une solution à destination des gens qui n'avaient pas accès au crédit. Donc forcément, on est plus coûteux qu'un crédit, vu qu'on effectivement on finance in fine. On est aussi coûteux qu'une banque qui vous financerait in fine. Et effectivement, quand on compare au crédit, bah, il est évident que les gens qui peuvent emprunter doivent emprunter. Et les gens qui ne peuvent pas emprunter, nous, ce qu'on leur conseille de faire, c'est faire leurs travaux avec nous plutôt que de ne pas faire les travaux.
Et à la fin des fins, il faut quand même rembourser la part que vous achetez du moment que vous allez rénover, que vous allez aider à rénover. Est-ce que le propriétaire bailleur et le propriétaire tout court des formations professionnelles, le propriétaire est gagnant à la fin quand même ou pas? Parce qu'il vous rembourse finalement une part qui est supérieure à l'argent que vous avez avancé pour les travaux.
Et comme quand vous empruntez, vous avez un coût du crédit à la fin parce qu'il faut financer cet argent, financer le risque. C'est la même logique, sauf que c'est porté in fine et effectivement, il doit rembourser une somme qui est supérieure au montant qu'on lui a effectivement avancé initialement. Et dans la plupart des cas, c'est pas lui qui rembourse, c'est l'acquéreur qui rembourse. Parce que dans la plupart des cas, c'est pas comme un crédit qu'on rembourse au fil du temps. Dans la plupart des cas, nous, premières opérations qui ont fait le tour de l'opération, c'est des gens qu'on a financés il y a quelques mois ou quelques années, qui ont revendu leur maison, revendu leur appartement, et c'est l'acquéreur qui a payé notre part, finalement, et eux ont récupéré leur part. Donc c'est assez transparent d'un point de vue économique pour le client, d'un point de vue trésorerie. Et donc c'est ça le scénario classique.
Oui, il vous rembourse en une fois, me dit Alban, notre réalisateur qui est à fond dans ces sujets-là. Donc voilà, oui, effectivement, il vous rembourse en une fois. Mais du coup, quand même, il a aussi revalorisé son patrimoine, j'imagine, du même coup. Donc le prix global est quand même plus élevé que ce qu'il aurait obtenu.
C'est pour ça qu'on finance pas une pompe à chaleur dans une passoire thermique, parce que ça n'apporte pas de valeur au bien sur le long terme. Ça peut apporter sur le court terme, mais pas sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on finance en moyenne des projets de 50 000 euros et pas de 10 000 euros. Et que dans des projets de 50 000 euros où on adresse l'isolation, le chauffage et la ventilation, il y ait de la création de valeur suffisante pour que ce soit largement rentable.
Bon, encore faut-il, maintenant qu'on a fait ça, encore faut-il que les gens aient encore envie de faire les travaux. Parce que notre cher et tendre gouvernement nous a annoncé donc la semaine dernière son intention, je dis intention parce que c'est pas fait encore, mais bon, son intention de laisser un délai supplémentaire aux propriétaires bailleurs, cette fois-ci, pour louer leur passoire énergétique, moyennant un engagement de travaux, on ne sait pas comment ils vont le faire, mais en gros, vous aurez 5 ans de plus pour un appartement dans le collectif pour les passoires thermiques et 3 ans de plus pour des maisons passoires thermiques. Audrey, je vous regarde, est-ce que ça, c'est nature à engager les gens à continuer à faire les travaux ?
Alors, faut peut-être rappeler un peu l'origine. Hein. L'origine, c'était la loi de 2021 avec cette interdiction. En fait, d'abord, on a créé l'opposabilité du DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, pour donner vraiment une valeur à cette étiquette énergétique. Et une fois qu'on avait fiabilisé ce diagnostic de performance énergétique, on a créé une règle qui était une interdiction progressive dans le temps, avec de la visibilité pour les propriétaires, pour la mise en location de ces l'interdiction de la mise en location de ces passoires.
On rappelle rapidos le calendrier. 1er janvier 2025, c'était les G. 1er janvier 2028, les F. Et 1er janvier 2034, ce seront donc les E.
Exactement. Donc, c'est relativement progressif et dans le temps. Donc, on a, avec la visibilité nécessaire. Et là, on passe effectivement, avec ce projet de texte, d'une interdiction à une autorisation sous condition de faire des travaux. Donc, on change un peu la logique qui avait prévalu à l'origine. Et c'est vrai que nous, ce qu'on pense, c'est que on peut entendre le sujet, même si la crise du logement n'est pas simplement due à ces interdictions de location. Hein, ça a bon dos quand même, hein, la
merci
rénovation énergétique.
Merci de le dire, Audrey. Merci.
Y a quand même, c'est multifactoriel et il y a des facteurs qui sont parfois beaucoup plus la location touristique, la difficulté à construire aujourd'hui.
Donc, la fiscalité.
La fiscalité.
Dont les gouvernements sont également responsables. Hein, quand même.
Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est assez simple de dire finalement. C'est des sujets, en ce moment la transition énergétique c'est quand même pas mal attaqué et puis c'est finalement une mesure qui pourra être assez simple. Donc nous ce qu'il faut absolument c'est sanctuariser quand même cette interdiction, maintenant autorisation sous condition, pour que les gens, comme vous disiez, soient toujours incités à réaliser des travaux. On rappelle que de réaliser des travaux, c'est pas simplement pour des logiques d'être dans les clous de cette autorisation. C'est aussi parce que ça peut avoir une valorisation patrimoniale à la fin sur le bien et sur l'investissement qu'on a fait. Donc nous, ce qu'on veut, c'est absolument sanctuariser cette logique où il faut réaliser des travaux de performance énergétique, non seulement pour la décence pour le locataire, mais aussi derrière pour la valorisation du patrimoine au moment de la vente.
Bah, je me retourne vers vous, parce que la valorisation du patrimoine, c'est un peu là-dessus que repose votre business model, Hervé. Mmh. Est-ce que justement cette revalorisation du patrimoine, elle sera la même demain ? Si ce texte est voté, si aujourd'hui on considère qu'on a plus de temps, parce qu'on a vu que finalement la décote rouge sur les passoires thermiques, elle s'est accentuée à mesure qu'approchaient les échéances d'interdiction à la location. Et pas uniquement sur le parc locatif, hein, c'était aussi sur le cas des propriétés des résidences principales. Donc voilà, est-ce que aujourd'hui vous pensez que la valeur de ces biens passoires et des biens rénovés sera la même demain après ce texte ?
Je pense que l'écart va se stabiliser. De toute façon, il est devenu tellement haut, hein, 9% pour une maison par étiquette énergétique et 5% pour un appartement, je le rappelle, en 2024, que de toute façon, on avait prévu qu'il se stabilise. Je pense que c'est un des effets de la hausse, effectivement, de sa valeur verte ou des cotes brunes, c'est l'interdiction de location, mais pas que. Il y a quand même beaucoup d'autres facteurs avant le bâton de l'interdiction de location, qui ne concerne effectivement à nouveau que les bailleurs, qui est une toute petite partie du parc, une minorité du parc.
Oui, mais sauf que quand même, c'est ça qui a accéléré.
C'est la première vraie interdiction. Mais je pense que ce qui accélère, c'est la facture d'énergie, particulièrement en ce moment. Il y a quand même un vrai sujet qui nous pend au nez sur des logements qui sont chauffés à l'électricité, chauffés au gaz ou au fuel.
Le vieux
chauffés au fuel ou au gaz, effectivement, sur une flambée des factures non maîtrisables et une explosion de la précarité énergétique. Et deux, sur le confort de vie, confort de vie en hiver comme en été, qui est un vrai sujet. Et aujourd'hui, cette prise de conscience de la facture et de l'inconfort, qu'on soit bailleur ou surtout occupant, on l'a pris en compte. Et quand on achète un bien, on a compris qu'effectivement, il fallait l'acheter moins cher quand il était en mauvais état énergétique, quand il était en bon état. Et ça, il n'y a pas de raison que ça s'inverse du jour au lendemain. Sauf scénario vraiment bien plus drastique où on effacerait carrément le DPE. où on se dirait « Ok, ça ne sert plus à rien, on casse le thermomètre et tout va bien. » Ou là, on reviendrait en arrière, il n'y aurait même plus de levier de mesure. Mais nous, on, dans nos projections, alors qui sont une partie effectivement de notre modèle, hein, même dans un modèle, nous, la valeur verte réduirait, il y a quand même un intérêt à faire ce qu'on fait. Mais effectivement, cette valeur verte, on n'estime pas que du jour au lendemain, parce qu'il y a un projet de loi, tout le monde va se dire « Génial, j'achète une passoire thermique au même prix qu'un bien tout à fait énergétiquement correct. »
Alors, quand même, Hervé, je regarde Audrey, il y a quand même certains qui commencent à se dire « Au rythme où vont les choses et où change la réglementation, qui nous dit qu'après ce délai de 5 ou 3 ans, on n'aura pas… plus rien du tout. L'année prochaine, c'est l'élection présidentielle, il me semble. On a certains partis politiques qui font campagne là-dessus, sur l'idée qu'il ne faut plus interdire du tout les passoires à la location. Est-ce que si on faisait tout sauter aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas quelque chose... Cette instabilité, finalement, est-ce que ça ne va pas, au contraire, justement, inciter tout le monde à ne rien faire, quoi ?
Alors, c'est sûr que c'est l'instabilité qui crée un peu le doute, et qui peut créer le doute. Mais je vais répondre à l'inverse. Il y a aussi beaucoup d'instabilité dans les aides. Aujourd'hui, on a des aides qui sont relativement conséquentes. Elles sont un peu moins importantes pour la rénovation d'ampleur qu'elles l'étaient il y a encore un an avec MaPrimeRénov' parcours accompagné. Mais elles restent très importantes pour réaliser ces travaux. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, si cette obligation sous condition, cette autorisation sous condition de travaux reste, mais que les aides diminuent, en fait, ce sera le mauvais pari que d'avoir parié d'attendre. Donc en fait, l'instabilité, elle va dans les deux sens. Elle va à la fois dans le sens de « oui », il est probable, il est possible, il est peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ce qui se passera, il y a plein de choses qui peuvent se passer avec les élections en 2027. Il est possible qu'il se passe des choses côté cette interdiction, mais il est aussi possible que cette interdiction soit maintenue, mais par contre que les aides baissent beaucoup. Donc, il est urgent de ne pas attendre et de se lancer dans des travaux maintenant, parce que c'est maintenant que les aides sont disponibles pour réaliser ces travaux.
Vous parliez de l'électrification, parce que c'est le sujet du moment, évidemment, compte tenu de la guerre au Moyen-Orient. Les équipes Défi, elles ont détecté un truc que moi, j'avais pas vu aussi, d'ailleurs. C'est l'idée qu'on pourrait... Alors, vous savez qu'on a réévalué les notes des logements chauffés à l'électricité depuis le 1er janvier, avec cet abaissement du coefficient. Apparemment, il serait aussi question d'abaisser de nouveau ce coefficient, et donc peut-être de faire rentrer dans les catégories décents les logements qui étaient considérés comme des passoires. Ça aussi, ça va dans le sens d'un relâchement, c'est une bonne chose. Comment on fait le distinguo entre tous ces projets, ces annonces, entre je donne 50 plus, je fais de l'électrification qui sur le papier ça a l'air bien, mais est-ce que c'est pas finalement avec une intention cachée derrière ?
C'est effectivement difficile de s'y retrouver, déjà pour un professionnel, mais encore plus pour un particulier, parce que les signaux sont contradictoires, et surtout on est dans la réaction en permanence, et on a du mal à avoir un cap clair qu'on tient. On parlait effectivement de sobriété, maintenant on parle que d'électrification, parce que c'est le sujet du moment. En fait, il faut faire les deux, et il faut pas lâcher la proie pour l'ombre, et tout d'un coup se mettre à fond sur l'électrification. Donc effectivement, ce coefficient, on attend de voir à combien il descendrait.
Donc là, il est à 1,9, c'est ça ?
Il était passé de 2,3 à 1,9, et là on n'a pas encore de chiffres sur le potentiel, et quand et combien il descendrait. Mais effectivement, ce qui est sûr, c'est que ça améliorerait la note de logements qui sont aujourd'hui considérés comme passoires thermiques parce que chauffés à l'électricité, et ça effacerait certainement à nouveau quelques centaines de milliers de passoires thermiques par magie, sans pour autant qu'on touche ni au confort ni à la facture d'énergie de ces biens. Donc nous, effectivement, on est évidemment pour une électrification, pour une indépendance énergétique, parce que c'est 99% des projets qu'on accompagne électrifient, sortent du gaz ou du fioul pour aller vers la pompe à chaleur. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais pas le faire sans réfléchir à comment on le fait. Parce qu'effectivement, l'orientation que ça prend, et Audrey pourra en parler mieux que moi, c'est qu'effectivement, on va inciter, on le fait déjà depuis quelques mois, mais on va inciter de plus en plus des gens qui n'ont pas d'isolation, qui sont très mal isolés à installer une pompe à chaleur, parce qu'il faut électrifier à tout craint. Et ça, pour nous, pour les populations les plus exposées au changement climatique et les plus exposées aux explosions, à la facture d'énergie, c'est une catastrophe, parce que tout d'un coup, on va juste à nouveau casser le thermomètre et leur dire tout va bien pour vous, il n'y a rien à voir, il n'y a plus d'aide, vous n'avez plus d'interdiction, donc continuez à vivre chez vous dans des conditions précaires et essayez de payer vos factures à la fin du mois.
Audrey, commentaire là-dessus, parce que moi, ça m'intéresse tout particulièrement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je mets une pompe à chaleur, peut-être que je vais gagner une ou deux notes de diagnostic de performance énergétique, mais mes factures ne vont pas baisser si je n'ai pas isolé, c'est ça ? En gros, si je résume grossièrement ?
Alors, les factures, elles peuvent baisser. La question, c'est est-ce que vous avez fait les choses dans le bon ordre pour ne pas avoir surfacturé quelque part votre pompe à chaleur ? Quand vous allez installer une pompe à chaleur, si vous êtes installé une pompe à chaleur dans une passoire, vous allez surdimensionner, parce que vous allez avoir besoin de plus de chaleur, puisque le le logement n'est pas isolé. Et donc là, vous allez surfacturer votre pompe à chaleur, alors même que si vous aviez d'abord isolé, et quelque part, finalement, peut-être que le coût global serait identique, mais vous aurez isolé votre logement. Et il y a des isolations qui coûtent pas très cher. Hein. Déjà, l'isolation de vos combles perdus, c'est la première chose à faire, ça coûte pas très cher, et ça reste assez efficace. C'est même le geste d'isolation le plus efficace et le meilleur rapport qualité-prix en isolation avant d'installer votre pompe à chaleur. Donc en fait, le risque, c'est ça, c'est que vous ayez soit des pompes à chaleur qui sont surdimensionnées par rapport aux besoins, soit elles ont pas mal été dimensionnées. Donc elles sont dimensionnées comme si ça avait été isolé, mais ça ne l'est pas. Et donc là, vous allez avoir des contre-performances, c'est-à-dire que vous allez mettre à fond votre pompe à chaleur et pour autant, vous allez continuer à sentir de l'inconfort chez vous et à avoir froid. Donc en fait, il y a un vrai risque, effectivement, à tenir un discours radical. Alors je sais que c'est compliqué en fait pour le gouvernement d'avoir de la nuance parfois dans ce qui est proposé, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire on fait un coup de volant vers l'électrification. C'est plutôt une bonne chose parce que ça permet d'ancrer dans les esprits que le gaz, le fuel, effectivement c'est un problème pour la souveraineté énergétique, c'est un problème en termes de facture pour le ménage.
Quand même, juste d'un mot, Audrey, c'est caca boudin le gaz et le fuel. Enfin, le coefficient du gaz, il me semble, est encore nettement inférieur, quand bien même on a baissé le coefficient de l'électrique. Il est encore nettement inférieur à celui de l'électricité, en fait.
Ouais. En fait, on reste sur des vieilles références. Donc l'idée, c'est quand même de mettre à jour ces références. Aujourd'hui, c'est propice parce que avec la guerre au Moyen-Orient, on a vraiment une raison qui est à la fois souveraineté, à la fois facture. Donc c'est vrai que c'est le moment d'avoir ce discours-là. Mais attention aux discours qui sont trop des coups de volant, parce qu'encore une fois, on décrédibilise la parole publique et c'est quand même gênant d'avoir des discours qui soient aussi radicaux. Je reviens sur le sujet de l'interdiction de location des passoires. En fait, il y a vraiment eu un mouvement où on a voulu dire il y a une règle qui s'appelle l'interdiction de location. La décence énergétique est importante maintenant pour les locataires et c'est important comme facteur pour la mise en location. Donc on a voulu faire les choses de manière assez radicale.
Ouais.
Et maintenant, en fait, on revient en arrière avec des logiques de flexibilité et d'aménagement. Il faut vraiment absolument se dire que la règle doit être sanctuarisée. C'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de se dire que ça compte maintenant absolument, que les gens ont pris conscience que ça comptait dans la facture, quand on achète un bien, dans le confort, et qu'avant ils n'avaient pas forcément conscience de ces éléments-là, ça c'est vraiment l'interdiction de location qui a entraîné, et le DPE opposable qui a entraîné cette logique-là. Il ne faudrait vraiment pas perdre cette logique-là sous couvert de manière un peu des sujets conjoncturels.
Oui, d'autant que vous le rappeliez hors antenne, mais c'est important de le redire, Audrey, à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont propriétaires bailleurs d'une passoire et qui se diraient « Youpi, je vais remettre mon bien à la location ». N'oubliez pas non plus qu'il y a quelque chose qui perdure, c'est les interdictions de réévaluation des loyers des passoires thermiques. C'est-à-dire que vous pouvez réévaluer tous les ans à la date anniversaire de votre bail le loyer en fonction de l'indice de référence des loyers, l'IRL. C'est pas le cas pour les passoires thermiques. A priori, ce sera pas le cas demain. Et qui nous dit que ce projet de loi qui est dans les tuyaux, par le débat parlementaire, n'introduira pas non plus une augmentation ou une baisse, pardon, à imposer des loyers qui serait équivalente, je ne sais pas, par exemple, à la surconsommation énergétique des locataires. Donc, vous emballez pas non plus, amis propriétaires bailleurs, à vous précipiter dedans. Je pense qu'il va falloir attendre pour savoir précisément à quelle sauce vous allez être mangé, parce qu'il y a toujours une carotte, mais il y a toujours un bâton derrière.
Il y a un autre effet de bord qu'on oublie un petit peu. Nous, on est beaucoup en copropriété. Je ne sais pas si chez FI vous l'êtes aussi, mais on est de plus en plus en copropriété. On se rend compte que la dynamique en copropriété est très importante. Pour rappel, l'an dernier, les travaux en copropriété, c'est plus 53% par rapport à l'année précédente, alors qu'en maison, on est plutôt aux alentours de plus 13%. La copropriété est en train de rattraper en volume la maison individuelle.
Tant mieux,
travaux d'ampleur.
Il était temps.
Il est tant mieux. C'est un processus qui est long, qui est fastidieux, d'aller faire voter tout le monde, d'engager des travaux, de les réaliser derrière. C'est en moyenne souvent 3-4 ans. Et en fait, ce process, il en est là aujourd'hui en termes de dynamique. Il a mis du temps à accélérer aussi parce qu'il y a eu ce bâton qui est arrivé, qui a poussé effectivement une partie de la copropriété, qui sont des bailleurs, à s'intéresser à ça. Parce qu'en fait, quand on vit pas dans un logement, tant qu'il n'y a pas de bâton, on se dit, j'ai mon locataire qui râle une fois par an, mais c'est pas vraiment mon problème. S'il est pas content, j'en trouverai un autre demain parce qu'on manque de propriétaires. Et ça a poussé quand même pas mal. C'est compliqué d'obtenir une majorité sur des gros travaux qui coûtent des millions d'euros. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, grâce à toutes ces obligations, parce que tout d'un coup, tout le monde se met dans le rang. Et si tout d'un coup, on procrastine et on se dit, bon, en fait, il n'y a pas d'urgence, on gagne 5 ans, Bah, il y a plein de copropriétaires qui sont en train de dire chic. En fait, ce qu'on a prévu de voter là au mois de mai, en fait, moi, je vais leur expliquer que c'est pas urgent et que ça peut tout à fait attendre 2028. Et du coup, on a une copro de 100 lots, 200 lots, qui va se retrouver avec une vieille chaudière au gaz et une isolation catastrophique qui va continuer à émettre, qui va continuer à mettre plein de gens dans la misère sociale. Et ça, ce serait dommage, vu l'inertie du marché de la copropriété,
ouais, mais bien sûr,
que ça stoppe. Et pour être beaucoup avec des acteurs qui sont sur le terrain et qui travaillent énormément sur ce sujet, c'est leur principale peur aujourd'hui, c'est qu'en enlevant ce bâton-là, finalement, en ayant un scénario un peu tiède, où on a moins de carottes et moins de bâtons, bah finalement, ça pousse à ne pas
rien faire,
à attendre, exactement, à s'acheter un pull, à commander des stères de bois, et à se dire que tout ira bien demain, alors que ce n'est pas la réalité.
C'est pas le sens de l'histoire, c'est ça que vous dites, quoi, en dépit des gesticulations politiques. D'un dernier mot, il nous reste une minute tous les deux. Du coup, à celles et ceux que les gesticulations politiques du gouvernement n'auraient pas refroidi de faire les travaux de rénovation, donc oui, pompe à chaleur, mais assorti d'isolation, ça c'est encore subventionné par MaPrimeRénov, les certificats d'économie d'énergie, je peux obtenir jusqu'à combien en aide ?
Sur la pompe à chaleur, évidemment, ça reste subventionné et très bien subventionné, hein, puisqu'on est entre 11 et 13 000 euros d'aide pour une pompe à chaleur qui coûte en moyenne entre 13 et 15 000 euros. Donc voilà, ça reste avec des restes à charge assez faibles, notamment pour les ménages les plus modestes. Ouais. Et en plus, il y a une nouvelle mesure qu'a annoncé le gouvernement pour aider encore un peu plus ces ménages-là. Sur le reste, sur l'isolation, donc MaPrimeRénov, en fait, il y a encore des gestes d'isolation, mais très peu, les fenêtres, les toitures terrasses, mais tout ce qui est isolation par l'extérieur n'est plus éligible à MaPrimeRénov en gestes simples. En revanche, dans le cadre du parcours accompagné, évidemment que là, on peut aller jusqu'à 32 000 euros d'aide pour pouvoir réaliser des travaux de rénovation globale. Alors, c'est moins qu'avant, mais ça reste quand même assez intéressant pour des travaux qui sont, encore une fois, qui permettent de valoriser derrière le bien à la vente ou à la location.
C'est ça, faire la réno globale, en gros, le mot de l'histoire.
Toujours.
C'est toujours un peu même, le créneau aussi de Masso.
Si,
hein.
Même si effectivement il y a moins d'aides et qu'on va dans un scénario, il faut quand même se le dire, où les aides ne vont pas réaugmenter, hein, quel que soit le président qui est élu en 2027. Donc il faut se préparer à ça. Et il faut construire l'avenir en réfléchissant avec les banques, avec des acteurs alternatifs comme nous.
Mais oui, on attend toujours la banque de la rénovation d'ailleurs.
Elle
Bref, en attendant, vous avez plus d'attente. C'est vachement bien. Merci à tous les deux. Merci à Hervé Degreff, cofondateur de Masso. Merci à Audrey Zermati, directrice de la stratégie Défi, d'avoir été avec nous. On reparlera évidemment rénovation dans les experts de l'IMO tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.